9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour, bonjour.
Ah, bonjour. Vous avez failli ne pas partir, ouais, maître Cyrano. Mais qu'est-ce qui vous arrive?
Désolé parce que.
Est-ce que vous voulez qu'on remette le générique?
Parce que écoutez, si c'est possible.
Si vous laissez un blanc comme ça.
Alors que je suis désolé.
En fait, vous êtes là pour percuter. Vous voyez, bonjour, bonjour.
On va reprendre.
Allez. Voilà, on va voir si. Attends.
C'est parce qu'en fait, j'entends pas le truc, là. Je vais.
Oui, alors branchez votre musique. Vous avez compris que l'émission de Maître Serran est exceptionnellement en direct, bien sûr, hein, parce que d'habitude, quand c'est enregistré, Maître Serran est coupé au montage, toujours un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut remettre le générique, s'il vous plaît?
9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Donc, bonjour, bonjour, camarades auditeurs. Maître Serran est ravi de vous accompagner durant une petite heure. Vous êtes peut-être en famille, prêt à prendre votre petit déjeuner, à vaquer à vos occupations du samedi, qui consiste en général, a priori, à l'une des trois choses suivantes. Alors, aller au sein d'une grande surface, blindée de monde pour faire vos courses, sortir avec les enfants, musée, cinéma, forêt, pourquoi pas, visite à la famille, ce qui peut être aussi pénible que de faire ses courses un samedi. Mais vous êtes peut-être au boulot et dans ce cas, bon courage à vous. Quelle que soit votre situation, nous écouter vous permettra, je l'espère, d'apprendre quelque chose et surtout, vous serez invité à poser des questions. Mais avant de vous jeter sur votre téléphone et de composer le 01 53 48 3000, évoquons l'actualité de la semaine. Et tout d'abord, je vais saluer mes amis russes, Pliviet Maeruski Druzia, ça signifie bonjour mes amis russes. J'ai fait beaucoup d'efforts depuis ce pseudo-conflit. Alors oui, je sais, il ne fait pas bon d'être du côté des Russes à l'heure où les pays occidentaux considèrent que leur ennemi est désormais la Russie et plus précisément Vladimir Poutine, cette même Russie qui, du temps où elle s'appelait l'URSS et sous la direction de Staline, a sacrifié 26 millions de ses enfants pour sauver l'Europe et le monde et des griffes d'un petit moustachu nommé Hitler. À côté, le débarquement des Américains qui est toujours mis à l'honneur, c'est de la pisse de chat. Cela fait une année que ce conflit dure, que Zelensky a ensorcelé les Occidentaux qui, dans leur propagande, laissent entendre que le monde entier serait contre la Russie. Or, rappelons que la Chine, la Corée du Nord, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Inde, d'autres pays africains et d'Amérique du Sud ne condamnent pas la Russie et certains soutiennent même Poutine. Il est peut-être bon de rappeler qui est à l'origine de ce conflit. L'Ukraine s'était engagée à ne pas entrer au sein de l'OTAN, mais manifestement la parole du dirigeant ukrainien n'ayant aucune valeur, ce dernier a manifesté sa volonté de faire partie de cette institution, ce qui aurait permis aux Américains d'installer tranquillement sur le territoire ukrainien les missiles direction Moscou. Qui peut accepter une telle chose? Il est inutile de rappeler l'affaire des missiles de Cuba qui a donné lieu à un bras de fer entre Khrouchtchev et Kennedy. Mais curieusement, plus personne n'évoque cette provocation ukrainienne et surtout pas la France qui a manifestement décidé d'être le plus fidèle caniche de Zelensky. D'ailleurs, ne sachant plus comment manifester son soutien démesuré à ce qui n'est en définitive qu'une province russe, la Tour Eiffel était aux couleurs de l'Ukraine. Ça me donne envie de chanter cette comptine pour saluer les relations Macron-Zelensky. Je te le hesse, tu me le hesse par la barbichette. Bon, vous connaissez la chanson, je vous laisse terminer. Allez, assez disserté sur ce conflit, à vous la parole. Appelez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de notre généralissime monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, sur Beurre FM, Maître Serran qui bientôt va avoir une nouvelle datcha, bien sûr, vous l'avez compris, en Russie. Hein,
là, bah écoutez,
là, vous allez avoir la...
C'est jouable?
Ah bah, à mon avis.
Ouais.
Ah ouais.
Bah, je verrai peut-être, il s'appelle comment l'acteur français
Gérard. Gérard, ouais, une datcha en banlieue, là.
Ouais, il est bien vu là-bas, lui aussi.
Ah bah, à mon avis, oui. Bon, Maître Serran, je préfère quand vous parlez de Shakira, parfois.
Alors, Shakira, oui. Il s'est passé des choses ou pas? Je sais pas,
moi je voulais savoir, parce que bon, on est tous impatients de savoir où elle en est.
Bah, je crois que ça continue, cette histoire de mauvaise ambiance par médias interposés. Ouais. Et j'ai appris, alors je suis pas Voilà, encore une fois.
Vous êtes bien informé.
Je suis pas spécialiste de chacun, mais j'ai appris, comme ça, je suis tombé dessus par le plus grand des hasards, que son ancien mec, Piqué, et sa nouvelle compagne se sont fait jeter d'un restaurant. Voilà, parce que le boss du restaurant, il est plus Shakira que le boudin qui est avec Piqué.
Donc c'est pas un boudin, non, attendez, c'est pas un boudin non plus.
À côté de Shakira, si, Shakira est plus âgée, mais attention, c'est du grand millésime quand on la voit. Enfin, quand on la voit, c'est-à-dire qu'en fait, les demoiselles, faudra les voir au réveil. Voilà, parce que quand t'as son coiffé, maquillé, ça peut passer. Et puis des fois, enfin moi j'ai souvenir, hein, quand j'étais plus jeune, de... Vous vous réveillez et puis vous avez l'impression de, que la demoiselle avec qui vous êtes couché ne ressemble plus à la demoiselle qui est près de vous le matin.
Non, mais pas Shakira. Shakira est
non,
la
pas
même.
Shakira. Ouais. Non,
Shakira
ouais.
est la même au coucher et au lever.
Enfin, vous savez. Hein,
comme Jennifer Lopez.
Ouais, même la femme la plus belle du monde l'est beaucoup moins le lendemain. C'est ce qui est normal. Une fois qu'on s'est habitué, après, on trouve que la demoiselle peut être fade. C'est
bon,
surprenant.
Pas facile d'enchaîner. Hein. Je rappelle que vous pourrez appeler Maître Serran tout à l'heure au 01 53 48 3000 pour poser vos questions juridiques. On va parler du dépôt de plainte ce matin. Le dépôt de plainte qu'on peut déposer de multiples façons, Maître Serran. Aujourd'hui, on peut le faire en ligne.
Alors, on peut le faire en ligne. Alors, c'est une pré-plainte.
Ah oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour, on va dire, éviter de passer parfois une heure, deux heures, trois heures à attendre au commissariat pour être reçu si les policiers vous font le grand honneur de vous recevoir pour officiellement prendre votre plainte. Donc c'est vrai que c'est un système, quand il fonctionne, hein, parce que ça fonctionne pas forcément au sein de tous les commissariats, mais quand il fonctionne, ça peut être intéressant. Donc c'est une plainte que, enfin voilà, y a un petit formulaire, vous allez remplir ça. Et puis on va vous fixer un rendez-vous. Vous. Donc, ce qui vous évite, entre guillemets, déjà de venir et d'attendre X temps, et à ce moment-là, vous allez formaliser votre plainte. Alors là, on parle du commissariat. Il faut savoir que la plainte peut être déposée auprès de n'importe quel commissariat, n'importe quelle gendarmerie.
Alors, on n'est pas obligé d'aller dans le commissariat de son lieu de résidence.
Non, parce que souvent, on me pose la question. Alors, on me dit le commissariat de mon lieu de résidence veut plus me voir ou j'y vais trop souvent et puis refuse de prendre ma plainte. Alors c'est vrai qu'on leur répond, vous pouvez aller auprès de n'importe quel commissariat, n'importe quelle gendarmerie. Mais il faut savoir quand même qu'une fois que la plainte a été rédigée, elle sera envoyée au commissariat de votre lieu de domicile. Voilà. Donc, mais ça permet au moins de faire inscrire sa plainte. Une fois que vous avez déposé votre plainte auprès de ces autorités, on doit vous remettre un récépissé et on va vous remettre une copie de cette plainte. Alors c'est assez sournois parce qu'on vous remet une copie de cette plainte si vous le demandez. Donc si spontanément vous ne demandez rien, on ne vous remettra pas une copie de la plainte. Donc il ne faut pas hésiter à le demander systématiquement. Et en particulier quand vous allez ensuite voir votre avocat, puisqu'à minima, on a besoin de ce type de documents. Ensuite, le commissariat, la gendarmerie, va envoyer cette plainte au procureur de la République. Et ça, c'est important parce que celui qui prend la décision de dire « je considère qu'il y a une qualification, comme on dit, pénale et donc ça mérite d'engager des poursuites », c'est pas le policier qui va vous recevoir. Or, très souvent, quand vous racontez votre histoire au policier, le policier vous dit « écoutez, c'est pas du pénal, c'est du civil ». Alors, parfois, c'est vrai. Par exemple, si votre locataire paye pas votre loyer, vous allez déposer plainte, ça sert à rien. C'est du civil. Mais très souvent, les policiers ont tendance à répondre ça facilement en disant, écoutez, ça relève pas de notre compétence et puis on vous envoie bouler. D'abord, il faut savoir que prendre une plainte, c'est obligatoire.
Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ils n'ont pas voulu prendre ma plainte en considération.
Ouais. C'est complètement ça.
Donc, c'est obligé.
Alors, d'abord, c'est obligé. Donc, il y a un article. Hein, c'est l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Et puis, dans n'importe quel commissariat, vous avez affiché normalement le code de déontologie et puis on vous précise bien que le policier doit prendre votre plainte. Quand bien même cette plainte serait totalement farfelue, ce n'est pas au policier de qualifier la plainte ou de dire cette plainte est sérieuse ou pas sérieuse. Le policier, c'est une chambre d'enregistrement, il enregistre la plainte. Il la transmet au procureur de la République, qui est le seul compétent pour décider si cette plainte mérite une éventuelle poursuite ou pas. Donc, normalement, cette plainte se retrouve entre les mains du procureur de la République. Et puis, le procureur de la République a également deux options. C'est-à-dire qu'il peut décider de donner suite, c'est-à-dire qu'il considère que cette plainte est sérieuse, elle est motivée, elle est crédible, et il peut décider lui-même de sanctionner la personne concernée, visée par cette plainte. Ça se passe dans un bureau avec le procureur de la République qui va convoquer l'intéressé, lui dire voilà, il y a monsieur, madame X qui vous reproche ça, je considère que les faits sont qualifiés, et puis le procureur de la République va proposer une peine. Alors la peine, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, si vous l'acceptez, ça s'arrête là, si vous ne l'acceptez pas, le dossier sera renvoyé devant un tribunal correctionnel. Et c'est le président du tribunal correctionnel qui va considérer si vous méritez ou pas d'être sanctionné. Mais le procureur de la République peut dire « moi je vais classer cette plainte », alors soit parce qu'il considère que les faits sont pas établis, alors vous vous racontez une histoire, mais juridiquement ça ne colle pas, ou alors il peut considérer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les faits sont établis, mais ne peuvent pas être qualifiés pénalement. Encore une fois, si vous avez un litige avec votre voisin parce qu'il fait trop de bruit, si votre locataire ne vous paye pas, alors c'est pénible, mais il y a un tribunal civil pour ça, ça relève pas de la compétence du procureur de la République. Et donc le procureur de la République peut classer sans suite. Ce classement sans suite doit en principe vous être notifié. C'est-à-dire, moi, procureur, je vous envoie un courrier qui dit, écoutez, votre plainte déposée tel jour, je la classe sans suite, à charge pour vous, éventuellement, de la contester. Alors, c'est une procédure devant la cour d'appel pour dire, écoutez, ma plainte a été classée sans suite, je demande à un magistrat, donc à la cour d'appel, de qualifier cette plainte et donc de considérer qu'elle est recevable. Mais si, au bout de 3 mois, vous n'avez pas de retour du procureur de la République, vous avez à ce moment-là la possibilité de déposer vous-même la plainte, entre guillemets, c'est comme si vous alliez le court-circuiter, mais de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Donc même si le procureur de la République classe sans suite, ou si le procureur de la République ne vous répond pas, et si vous êtes motivé, vous pouvez aller au-delà et donc saisir le juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, ça faut le savoir, quand il considère qu'il doit prendre votre plainte, vous aurez une somme d'argent à payer. On appelle ça une consignation. C'est-à-dire que, mon cher Philippe, vous déposez plainte, je suis le juge d'instruction, et puis pour m'assurer de votre sérieux de votre plainte, et que ce n'est pas un truc fantaisiste ou un caprice, je vais vous demander de consigner une somme d'argent. Alors c'est en fonction des revenus des uns et des autres. La dernière consignation qui a été faite par l'un de mes clients était à hauteur de 3 000 euros, c'est-à-dire que vous versez ce chèque, on appelle ça la régie, en tout cas voilà, ça revient au tribunal. Cette somme est encaissée, et puis si votre plainte est sérieuse, si effectivement l'instruction, c'est-à-dire l'enquête aboutit, je vous restitue cet argent. Mais si par extraordinaire, on considère que c'est une plainte totalement farfelue et que vous avez fait ça peut-être pour embêter X ou Y, évidemment cet argent vous le perdez. Donc ça freine parfois les personnes, et quand on vient nous voir pour nous dire, écoutez, voilà ce que j'aimerais faire, on leur indique, attention, c'est à l'État, tape au portefeuille. Donc il faut quand même être motivé, il faut être certain et ne pas faire ça pour embêter X ou Y, mais le juge d'instruction demande ce qu'on appelle une consignation. Et puis, si vous consignez, il faut savoir, tant que ce n'est pas consigné, le juge d'instruction ne fait rien. Donc il faut que ce soit consigné. À partir de là, le juge d'instruction mène l'enquête, c'est-à-dire qu'il va vous convoquer éventuellement la personne concernée, si on sait qui c'est, parce qu'une plainte peut être déposée également contre X, c'est-à-dire contre une personne non dénommée, voilà, donc c'est l'enquête qui devra déterminer qui est derrière ce X, et à partir du moment où l'enquête est menée, le juge d'instruction pourra renvoyer l'affaire devant un tribunal correctionnel, et puis cette fois-ci l'affaire pourra être jugée. Alors comme ça semble entre guillemets simple, il faut savoir quand même que dans les faits, les plaintes, en tout cas lorsqu'elles sont déposées auprès du juge d'instruction, motivent pas forcément les juges d'instruction en fonction de votre affaire. C'est-à-dire que moi j'ai plusieurs dossiers où on a eu des escroqueries, c'est-à-dire des véhicules qui ont été vendus et voilà, les véhicules avaient un kilométrage pas possible alors que le contrôle technique dit que ce véhicule est tout récent. Ce sont pas des infractions où on se dit c'est tellement grave que moi juge d'instruction je vais mener une enquête. Il y a quand même une sorte de priorité. Alors c'est pas à cause du juge d'instruction personnellement, c'est le fait que dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de juges, donc on va faire en sorte de donner la priorité aux infractions qu'on considère les plus graves, et les infractions qu'on considère les plus graves sont les infractions qui portent sur les personnes. Donc il est certain que votre histoire de cambriolage ou votre histoire de véhicule, et vous considérez qu'il y a une escroquerie, ça ne fait pas malheureusement partie des priorités des juges.
Et qu'est-ce qui relève de la main courante et qu'est-ce qui relève de la plainte?
Alors,
est-ce qu'on sait finalement quand on doit déposer l'un ou l'autre?
Alors d'abord, en règle générale, très souvent quand vous allez déposer une plainte, le policier vous dit écoutez, une main courante c'est largement suffisant. Il faut savoir quand même ce que signifie main courante. Une main courante c'est simplement la déclaration de la personne qui se présente au commissariat. Si vous dites écoutez, voilà ce que je reproche à mon voisin et c'est une main courante, votre voisin ne sera jamais informé, ne sera jamais convoqué par le commissariat pour dire écoutez, il y a monsieur et madame X qui dit ça contre vous, donc on va vous écouter. Donc la main courante, c'est votre déclaration, sauf que quand on discute avec les personnes et que les personnes veulent aller jusqu'au bout de la procédure, une main courante en soi, c'est pas suffisant. Donc faut pas hésiter à insister auprès du commissariat et insister pour dire c'est une plainte que je veux déposer.
Maître Serran qui répondra à vos questions juridiques dans un instant, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de à votre santé, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec Maître Serran qui répondra à vos questions juridiques dans un instant, 01 53 48 3000. On parlait du dépôt de plainte, Maître Serran. Combien de temps ensuite, après avoir déposé plainte, cette plainte est-elle instruite? Est-ce que ça peut prendre du temps?
Alors ça peut prendre du temps. C'est-à-dire, encore une fois, si vous déposez plainte auprès d'un commissariat et au bout de 3 mois vous avez rien, vous pouvez, entre guillemets, aller au-delà et puis saisir le procureur de la République. Si le procureur de la République, dans ce timing-là, ne donne pas suite, vous pouvez aller devant le juge d'instruction. Mais dans l'hypothèse où il y a une enquête, bien sûr que ça peut durer très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire va dépendre...
Mais quand vous dites très longtemps, c'est-à-dire...
Alors franchement, écoutez, au moment où je vous parle... On a des plaintes qui ont été déposées entre les mains du juge d'instruction. Alors évidemment, ce sont pas des histoires de meurtre, de viol, ce que je vous disais, c'est essentiellement des histoires d'escroquerie véhicule. Ça a été déposé il y a à peu près un an et demi. Au moment où je vous parle, le juge d'instruction, qui a pourtant demandé à ce que la somme soit consignée, cette somme a été réglée par mon client, le juge d'instruction, n'a convoqué personne. Alors c'est terrible, parce que quand on vient vous voir et qu'on vous dit, écoutez, moi je suis victime d'une injustice et avec un préjudice financier, qui est quand même important pour le client, et que dans la palette des procédures, vous indiquez que l'ultime procédure à faire, c'est de saisir le juge d'instruction qui est censé mener l'enquête, vous convoquer, écouter votre histoire et... faire en sorte de mettre la main sur l'escroc dénoncé, et qu'au bout d'un an et demi, le juge d'instruction n'a pas encore bougé une oreille au motif, non pas que l'affaire n'est pas juridiquement tenable, puisqu'elle est tenable juridiquement, mais qu'il y a des priorités, qu'il y a des choses beaucoup plus graves, c'est quand même difficilement audible pour le client. Et c'est pas faute de relancer régulièrement le juge d'instruction. Et là, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que on pourrait, dans l'absolu, si on est ultra-procédurier, engager la responsabilité de l'État pour dire « Attendez, moi, je vous ai saisi, il y a mon client qui a subi un préjudice, vous ne faites rien, je vais engager la responsabilité de l'État ». Mais d'abord, le client n'est pas venu pour ça. Il vient pour que la personne qui vous a, qui l'a escroqué soit sanctionnée. Et on considère d'ailleurs que un an et demi, peut-être deux ans d'attente pour que le juge d'instruction puisse dire, bah tiens, il y a ce dossier qui arrive, je vais peut-être ouvrir la première page. On considère que le délai n'est pas suffisamment long pour que ça puisse être considéré comme un préjudice. En gros, bah, patienter. Il y a beaucoup de dossiers.
Donc il n'y a pas un délai concret, finalement, entre le moment où vous déposez plainte et le moment où elle est instruite.
Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez déposé plainte, il ne peut plus y avoir de prescription. C'est-à-dire la prescription, c'est le délai à partir duquel où il s'est passé quelque chose et puis vous vous réveillez plusieurs années après en matière de délit. La prescription, alors c'est relativement long, c'est 6 ans, mais si vous n'avez jamais déposé plainte contre l'auteur présumé et puis au bout de 6 années et un jour, vous allez au commissariat où vous saisissez le juge d'instruction, on pourrait vous dire, attendez, ça s'est passé il y a 6 ans, donc maintenant c'est terminé. Mais à partir du moment où vous avez déposé votre plainte, c'est à la diligence du procureur, du juge d'instruction. On part du principe, et c'est tout l'intérêt de cette justice, il ne faut pas qu'elle soit expéditive, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit somnolente ou totalement endormie. Donc on part du principe que les magistrats font le nécessaire, mais c'est parfois difficilement supportable. Et c'est compliqué pour l'avocat d'expliquer ça au client qui, lui, ne peut pas comprendre toutes ces subtilités juridiques et ces arcanes juridiques. Et il se dit, moi, si je vais voir un avocat, c'est justement pour faire en sorte, entre guillemets, que ça aille vite. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça.
Donc il n'y a pas de il faut être patient.
Il faut être patient. Il faut que l'avocat relance régulièrement le juge d'instruction, qu'il n'hésite pas à y aller. Et d'ailleurs, alors ça aussi, mais c'est devenu une constante devant toutes les juridictions. Vous savez, il fut un temps, bon, ça fait quelques années maintenant que je suis avocat, il fut un temps où on pouvait accéder à n'importe quel juge d'instruction, les portes étaient ouvertes, et puis on pouvait même prendre un café avec le greffier, avec le juge, discuter des affaires. C'est impossible. Et maintenant, il faut savoir que les tribunaux sont de véritables bunkers. C'est-à-dire que pour accéder au juge d'instruction, alors vous devez d'abord préalablement en parler à l'accueil qui vous ouvre avec un code. Quand vous êtes sur Paris, c'est encore pire. C'est-à-dire que sur Paris, vous ne pouvez accéder au juge d'instruction qu'avec une carte qui vous est délivrée à l'accueil. Donc, il faut passer la carte. C'est-à-dire que les passages qu'on faisait assez régulièrement auprès des magistrats, d'abord, juste pour se saluer, c'est aussi la courtoisie, ou pour discuter d'un dossier comme ça, même si vous n'aviez pas forcément rendez-vous et autres, ça n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, il y a un formalisme absolu. Alors, je ne sais pas si c'est la volonté pour les juges d'instruction de ne pas, entre guillemets, s'embêter avec les avocats. Mais même ça, c'est devenu très compliqué. Juste pour aller prendre un renseignement auprès d'un juge d'instruction, même ça, il faut parfois prévoir une demi-journée, alors qu'auparavant, entre deux audiences, vous pouviez aller voir le juge. Donc, il y a ce côté, ce formalisme qui concerne tous les tribunaux qui est devenu assez insupportable aussi.
Et qui est chargé de mener l'enquête alors ?
Bah, c'est toujours alors le policier ou le gendarme est toujours sous l'ordre, alors soit du procureur de la République, soit du juge d'instruction. C'est ce qui fait que, alors souvent on a l'impression que le policier fait entre guillemets ce qu'il veut, il a envie, pas envie. Non, il faut savoir que qu'un policier, qu'un gendarme travaille pas de manière autonome. C'est-à-dire, il a un patron. Son patron, c'est d'abord le procureur de la République. Et quand il mène une enquête, on le voit. Hein, on a les policiers qui appellent le procureur de la République pour dire est-ce que, enfin voilà, ce qui s'est passé. Est-ce que je renouvelle la garde à vue ou pas. Ils lisent les déclarations de, alors soit des victimes, soit du premier concerné, et c'est le procureur de la République qui se fait son idée et qui dirige cette enquête. Et quand on est dans le cadre d'une instruction, c'est le juge d'instruction qui est, entre guillemets, le boss de cette procédure et qui donne, par définition, ses ordres, et là, en l'occurrence, ses instructions au service de la gendarmerie, aux policiers. Mmh. Mais c'est jamais le commissariat, parce que souvent on entend des clients dire « bah ouais, mais alors c'est le policier me dit que ». On leur explique que c'est pas le policier qui dit que. Le policier, encore une fois, il travaille sous les ordres d'un patron, et le patron, c'est soit le procureur de la République, soit pour certaines affaires, le juge d'instruction, et il fait ce que demande son boss, comme dans n'importe quelle société lambda.
Ça mobilise quand même pas mal de moyens humains, parce que mener une enquête...
Est-ce
qu'il y a suffisamment de monde pour mener toutes les enquêtes, finalement, qui se présentent?
C'est ça, le truc. C'est-à-dire qu'on part du principe, vous savez, c'est ce qu'on appelle un pouvoir régalien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Donc, la société s'est organisée telle que on ne peut pas se faire justice soi-même, on va me déléguer ce pouvoir, donc c'est moi, État, qui vais, entre guillemets, m'occuper de la justice, mener des enquêtes et ensuite dire le droit. La difficulté vient de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des commissariats qui vous disent, alors on vous dit pas, écoutez, votre affaire c'est n'importe quoi, elle nous intéresse pas, sortez, mais ça peut s'interpréter comme ça. À partir du moment où vous avez été escroqué, que vous avez un juge d'instruction qui met un an et demi, deux ans pour dire, bah tiens, on va peut-être mener une enquête, et entre-temps, le type qui vous a vendu ce véhicule tout pourri a disparu, ou il a fait faillite, en gros, il se passera quasiment rien. Donc à partir du moment où vous subissez tout ça, c'est difficile de dire ensuite au type qui a été peut-être sur place et qui a voulu régler ça en tête-à-tête, c'est difficile de lui dire « Non mais attendez, vous n'avez pas à faire justice vous-même puisque la justice est là. » Et c'est ça le problème, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie dans la manière de traiter les dossiers. C'est légitime et c'est normal que tout ce qui est atteinte aux personnes, on considère que c'est beaucoup plus grave que le fait d'avoir été cambriolé ou que le fait de vous avoir vendu un véhicule qui n'est pas aux normes. On peut l'entendre et le comprendre. Mais à partir du moment où on a l'impression qu'il faut, pour que le commissariat, la gendarmerie, le juge d'instruction, le procureur, la justice s'intéresse à vous, en gros, faut venir avec un bras arraché ou un couteau planté et pour dire, bah écoutez, vous avez vu, là c'est grave, faut peut-être faire quelque chose. C'est quand même pénible pour les victimes des autres infractions. Voilà, on reçoit pas tous et c'est tant mieux une balle en pleine poire pour dire, bah tiens, l'affaire est grave, on va mobiliser toute la police, toute la gendarmerie. Il y a ce genre des infractions du quotidien qui vous pourrissent la vie. Et si vous ne pouvez pas sereinement vous retourner auprès de l'institution officielle, auprès de la justice, ça pose problème. Combien de fois on a entendu des clients dire bah, « si c'est comme ça, je sais où le trouver, je sais où il est ». Alors oui, l'instinct primaire, on peut le comprendre et je peux l'entendre. La difficulté, c'est que si vous décidiez de faire justice vous-même, vous, par contre, vous serez interpellé. Et à ce moment-là, curieusement, la machine judiciaire va se mettre en route et vous allez vous retrouver devant un magistrat qui va vous dire « mais vous prenez pour qui ?» Vous faites justice vous-même. Et l'argument qui consisterait à dire « mais attendez, j'ai déposé plainte il y a X temps, il ne s'est rien passé » est irrecevable. Vous serez sanctionné. Et celui contre lequel vous vouliez vous retourner en respectant toutes les règles de droit, eh ben celui-là deviendra la victime. Donc il faut faire attention à cet instinct qu'on peut comprendre, hein, mais il faut faire attention à ça et puis faire en sorte de se freiner quand même.
01 53 48 3000, c'est le numéro du standard Le Beurre FM. Si vous avez une question à poser à Maître Serran, il y répondra dans un instant. Vous avez également la possibilité d'appeler Maître Serran sur son téléphone portable. Alors évidemment, pour des questions juridiques, hein, Maître Serran ne fait pas l'horoscope, et le tiercé, le planning de l'imam.
Non, exactement.
Ne répond pas sur les questions des cadeaux non plus.
Des fois, on m'appelle pour me poser des questions religieuses. Donc ça, je suis ultra incompétent là-dessus, mais je crois que tout le monde l'a compris. Enfin, sauf ceux qui m'appellent pour ça. Donc je suis joignable au 06 62 58 59 64 06 et 62 58 59 64.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, tout à l'heure, à 10h, l'islam au présent avec l'imam Youssef Hachmaoui, en remplacement de l'imam Abdelali Mamoun, qui est parti à la Omra.
Ah oui, c'est vrai.
Oui,
c'est
lui, il a un joker officiel, alors que vous, Maître Serran, vous n'avez pas de joker officiel.
Non, mais faudra peut-être qu'un jour, on y pense.
Faudrait être formé quelqu'un.
Faut y penser sérieusement, puisque d'abord, on ne rajeunit pas. Donc, avant de clamser, ce serait peut-être bien quand même d'aller faire un saut.
Trouver un jeune avocat qui reprendrait, qui aurait votre plume un peu.
Non, c'est pas possible. Enfin, là, vous pouvez chercher toute la France, toute l'Europe, voire même au-delà des frontières européennes. Vous ne trouverez pas.
En plus, qu'il parle aussi bien le russe. Maître Serran, on parlait du dépôt de plainte. Il y a un sujet qu'on aborde assez peu, c'est ce qu'on appelle les dénonciations calomnieuses. On peut faire l'objet de plaintes, comme vous le disiez tout à l'heure, de personnes qui veulent se venger. Déjà, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on doit réagir ?
Alors, c'est vrai que la dénonciation calomnieuse, ça signifie que je dépose plainte contre vous, mon cher Philippe, pour des motifs, on va dire, imaginaires, ou alors pour des motifs, pour des raisons qui, moi, me semblent légitimes, mais juridiquement, en vérité, on ne peut pas les qualifier en tout cas pénalement. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où la personne qui est visée par la plainte, elle est convoquée au commissariat, à la gendarmerie, elle peut éventuellement faire l'objet d'une garde à vue, ce qui n'est pas anodin, éventuellement faire l'objet d'une instruction, donc être convoquée dans le cadre d'une enquête, et puis au bout du bout, on se rend compte que l'enquête a été menée, puis on se rend compte qu'en définitive, il n'y avait rien à vous reprocher, qu'en définitive, cette plainte déposée par la personne X qui, encore une fois, avait d'abord le statut de plaignante, bah que cette plainte était totalement farfelue. C'est plus pour nuire à votre image, pour faire en sorte que votre entourage s'intéresse à votre situation en disant, bah oui, comme dirait l'autre, c'est une mauvaise personne. Mais l'enquête est menée, on considère qu'il n'y a rien, entre guillemets, que vous êtes propre sur vous. Bah, le préjudice, il est là quand même. Et en particulier, si vous avez subi une garde à vue. C'est jamais agréable d'être placé en garde à vue. En particulier, évidemment, si votre entourage a appris tout ça. Et encore plus gravement, si vous êtes une personne publique. Bah, à ce moment-là, on considère qu'il y a un préjudice. Il y a un préjudice moral, il y a un préjudice dans votre image. Et à votre tour, vous avez la possibilité de vous retourner contre la personne qui a déposé plainte contre vous pour une dénonciation calomnieuse. Et ça, c'est important parce que... alors, ça se passe devant un tribunal correctionnel.
Ça se passe à quel moment, en fait?
Alors, ça se passe à la fin.
Ah oui, donc il faut pas le faire au moment où la plainte est déposée.
Alors... Vous pouvez le faire à ce moment-là, c'est en gros en disant, bah tiens, je sais que je suis visé par une plainte, je considère que c'est n'importe quoi, je vais déposer une plainte à mon tour pour dénonciation calomnieuse. Sauf que pour établir si cette dénonciation est calomnieuse ou pas, encore faut-il que la première enquête soit terminée. C'est-à-dire qu'il faut que la police, la justice, après avoir entendu les uns et les autres, disent... oui, il est. On peut lui reprocher ces faits-là et votre plainte pour dénonciation calomnieuse tombe à l'eau. Ou alors, effectivement, on n'a rien à reprocher à cette personne. Et dans ce cas-là, ça bascule. Vous pouvez, si vous faites l'objet d'un classement sans suite, si vous faites l'objet d'une relaxe, c'est-à-dire que vous allez devant le tribunal correctionnel, puis le tribunal dit, bah non, monsieur, voilà, on va vous relaxer, ce qu'on vous reproche tient pas la route. Si devant le juge d'instruction, vous faites l'objet d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'après l'enquête du juge d'instruction, on considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment sérieux pour vous poursuivre, à ce moment-là, c'est la plainte pour dénonciation calomnieuse qui prend la relève. Et ce sera beaucoup plus simple, puisque le procureur de la République, quand il va recevoir cette plainte pour dénonciation calomnieuse, va vérifier est-ce que la première personne poursuivie a été condamnée ou pas. Si c'est écrit la personne a été relaxée, si c'est écrit que la personne n'a pas fait l'objet d'un non-lieu, c'est-à-dire de non-poursuite de la part d'un juge d'instruction, c'est une dénonciation calomnieuse. Et donc, celui qui a porté plainte de manière légère, va se retrouver devant un tribunal correctionnel et sera condamné à des dommages et intérêts, puisqu'en portant plainte contre moi alors que ce n'était pas suffisamment sérieux, en tout cas la justice a considéré que ce n'était pas suffisamment sérieux, vous avez porté un préjudice à cette personne.
Vous le conseillez, ça ?
Alors,
En tant qu'avocat.
Oui, bien sûr, je le conseille, mais la difficulté, c'est que, et ça je peux le comprendre, c'est que si vous avez été placé en garde à vue, si vous avez été convoqué pour des auditions, c'est déjà pénible à vivre. Donc c'est pénible à vivre. Et quand à la fin on vous dit, bon, l'affaire est terminée, vous avez, en règle générale, le client a envie de penser à autre chose, qu'à son tour de redéposer plainte, d'être à nouveau entendu par des policiers et de dire, voilà, moi je veux que mon préjudice soit réparé. Mais faut le faire. Faut le faire parce que c'est quand même pénible, tout simplement, d'avoir d'être convoqué par le commissariat et encore pire de se retrouver devant un juge d'instruction. Donc ça bouleverse quand même votre vie au quotidien. Et puis, on va considérer, même si vous êtes persuadé que vous n'avez rien fait, votre entourage a toujours un petit doute. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être que. Donc c'est bien de marquer le coup et lorsque vous sortez blanchi, de vous retourner contre l'intéressé et de lui mettre un coup de gourdin sur la tête. Il n'y a que ça qui peut, encore une fois, d'abord aux yeux des autres personnes et l'entourage, de dire « mais moi je l'ai fait condamner ». Donc comme ça, tout le monde ferme son clapet. Mais je peux comprendre que moralement, ça peut être pénible. Voilà, quand vous sortez d'une affaire judiciaire, même si vous en sortez blanchi, voilà, vous aspirez à autre chose et vous avez peut-être envie de respirer et de pas rentrer à nouveau dans la bataille.
Et faut bien faire la distinction, hein, c'est la dénonciation calomnieuse et pas la calomnie, parce que des calomnies, on peut en vivre tous les jours. Et c'est pas condamnable.
Non, c'est pas condamnable. La dénonciation calomnieuse, c'est vraiment encore une fois une procédure judiciaire. Voilà, je dépose plainte contre vous à la légère, vous êtes convoqué. Vous êtes passé par ce circuit-là, rien n'aboutit, vous pouvez vous retourner contre moi. La calomnie, bon, comme dira l'autre, c'est ce que vous pouvez subir au quotidien. Bon, il n'y a rien qui vous interdit de déposer plainte, mais en règle générale, ça ne va pas plus loin en la matière. Voilà, la qualification
ça
juridique.
Ça peut être une souffrance, les personnes qui sont victimes de calomnie, alors surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Ouais,
les...
Mais après, on a une autre qualification, ça peut être du harcèlement moral, par exemple, oui. Donc vous pouvez aussi déposer plainte et puis faire en sorte de qualifier ce qu'on appelle calomnie.
Alors Mohamed nous rejoint au 01 53 48 3000. Mohamed, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Sirane.
Bonjour Mohamed.
Voilà, je vous appelle pour une information concernant un contentieux au niveau du tribunal administratif.
Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, c'est au niveau du DALO. Est-ce qu'on peut demander une astreinte pour accélérer ou après le jugement ou pendant la requête.
D'accord, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle pour l'instant, donc vous avez déposé une demande de logement, vous avez attendu des siècles, et puis voilà. Au bout d'un moment, quand on attend trop longtemps, on engage, entre guillemets, la responsabilité de l'État, et en règle générale, c'est le préfet qui est condamné, et on dit au préfet, faites en sorte de trouver... soit dans le champ des appartements préfectures, soit au niveau des municipalités, faites en sorte de pouvoir trouver et donner un logement à l'intéressé. Est-ce que ce jugement, vous l'avez déjà obtenu ?
Pas encore.
Alors, donc il y a d'abord ce jugement que vous devez obtenir. C'est-à-dire que dans un premier temps, entre guillemets, on n'est pas là pour demander une quelconque indemnisation, on est là pour demander au tribunal de reconnaître que vous êtes prioritaire pour l'attribution d'un logement et que les services préfectoraux n'ont pas pris ça en considération. Donc il va se passer quoi ? Il va se passer que le tribunal va condamner la préfecture en disant « ce monsieur a été reconnu prioritaire, donc je vous condamne ». Je dis n'importe quoi, hein, donc à 500, 600 euros d'indemnité par mois jusqu'à ce que vous trouviez un logement à ce monsieur. Alors on peut se dire que ça va inciter la préfecture à faire le nécessaire, sauf qu'en vérité cet argent, il revient pas au client, c'est un argent qui revient à une structure qui permet justement la construction des logements. Mais pour que vous, vous soyez indemnisé, vous êtes obligé d'engager une deuxième procédure. Et une deuxième procédure pour dire « La préfecture a été condamnée à telle date à me trouver un logement. Elle n'a toujours rien fait, elle m'a toujours rien trouvé. » Dans ce cas-là, vous pouvez demander, vous, à être indemnisé pour votre préjudice, puisque juridiquement, vous devriez avoir un logement, mais que l'administration ne fait rien. Et donc, c'est dans le cadre de ce second procès que vous pouvez demander vous-même à être indemnisé à hauteur de, n'importe quoi, pareil, 500, 600 euros. Mais ce n'est pas le premier jugement. Hein. Le premier jugement, la condamnation financière, elle ne revient pas pour vous.
C'est courant hein, que les gens ne soient pas relogés, Maître Serran. Ouais.
C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que la procédure en elle-même, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'on tape sur la tête de l'État pour dire « débrouillez-vous pour trouver un logement à Monsieur X, Madame Y ».
Est-ce que c'est suivi des faits? C'est ça le...
C'est toute la difficulté. Sauf que dans les faits, il se passe rien. Vous voyez, donc c'est frustrant.
À quel moment on peut engager une deuxième procédure?
Une fois que le premier jugement a été rendu. C'est-à-dire qu'il faut un premier jugement qui condamne la préfecture à vous trouver un logement. C'est-à-dire qu'il oblige à vous trouver un logement. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez mettre en avant cette première décision, engager une seconde procédure et dire « Attendez, ils ont été condamnés et au moment où on se parle, ils m'ont toujours pas fourni de logement. » Mais il faut d'abord attendre le premier jugement.
Et quand le premier jugement il est prononcé, il faut attendre combien de jours
À partir du moment où le premier jugement est prononcé et qu'il devient définitif, c'est-à-dire c'est lorsque le délai pour faire appel est expiré, on va dire dans le mois qui suit, vous pouvez assigner, poursuivre à nouveau cette administration, en règle générale c'est l'autorité préfectorale, et demander, dans ce cas-là, c'est une procédure indemnitaire. C'est-à-dire que je fais ça pour que le tribunal condamne le préfet à me verser une indemnité puisque je subis un préjudice. Merci. Mais ça, il faut le faire. Hein. Voilà. Il faut le faire parce que beaucoup de personnes...
Il y a besoin d'un avocat?
Non, l'avocat n'est pas obligatoire.
Donc ça, c'est important de préciser.
C'est une procédure qui n'est pas très compliquée. Et il faut le faire parce que beaucoup de personnes obtiennent des décisions qui condamnent le préfet et beaucoup de personnes ne donnent pas suite, malheureusement. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire.
D'accord. Merci beaucoup, Maître Serran, et merci, Philippe.
Merci Mohamed, pour votre appel. Maître Serran, vous serez là samedi prochain parce que vous ne prenez pas de vacances d'hiver.
Non, je ne prends pas de vacances d'hiver. Je n'accompagne pas l'imam non plus, donc je serai là, si Dieu le veut.
Hein, voilà, et on vous retrouvera au bois, sur votre vélo, dès demain matin.
Oui, absolument. Hein.
Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas pu passer à l'antenne ce matin, qui peuvent vous appeler sur votre téléphone portable, Maître Serran.
Au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Le programme de la matinée, dans un instant, l'islam au présent avec l'imam Youssef Hachmaoui, puis à 11h, vos petites annonces week-end. On parlera avec l'imam tout à l'heure de ce mois de Chaban dans lequel nous venons de rentrer, moi qui précède le mois de Ramadan. Mois de Ramadan où vous retrouvez tous les soirs Maître Serran pour sa chronique d'ailleurs.
Avec grand plaisir.
Non, j'aime bien quand vous êtes comme ça pris en otage, Maître Serran, et que vous vous engagez devant les auditeurs de Beurre FM à samedi.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.